Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture planète du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone et filmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
En aucun cas, je me disais, tiens, j'irais bien voir un film psychologique où un couple d'amoureux a du mal à vivre ensemble, se sépare, mais finalement regrette et se remet ensemble. Mais il y a l'ami de la femme qui revient, et alors dans ces cas-là, il apprend comme maman et tout. Parce que ça m'emmerdait royalement. Donc moi, j'allais voir un film de genre.
Au sommaire aujourd'hui, une émission hommage. Et oui, parce que l'un de nos amis, l'un de nos compagnons de route et puis l'une de mes idoles nous a quittés durant cet été. Un certain Jean-Pierre Putters. Jean-Pierre Putters, on vous rappelle que c'était le fondateur de Mad Movies. Hein, donc, on a appris son décès cet été avec beaucoup de tristesse. Moi, adolescent, c'était mon idole. C'est aussi celui qui a donné la vocation à beaucoup de personnes, puisqu'il a démontré qu'on pouvait ne pas être un universitaire et être un critique de cinéma émérite. J'ai fini par le rencontrer. Voilà, à peine majeur. Hein, j'allais dans sa boutique, Movies 2000, en fait. C'est comme ça que je l'ai rencontré, parce que c'était un homme qui faisait tout. Hein, il écrivait ses livres. Au tout début de sa carrière, il travaillait même la nuit en tant que pâtissier. D'ailleurs, les clients qui allaient à Movies 2000 se rappellent qu'il préparait régulièrement des pâtisseries pour ses clients. Petit à petit, sans devenir un véritable ami, ce serait un grand mot, mais en tout cas, je me suis mis à le fréquenter, à le connaître. J'ai fini par travailler avec lui sur un documentaire. Et puis après, pour lui, lorsque j'étais rédacteur dans Metaluna, alors évidemment, j'étais très très heureux de travailler avec ce monsieur que je vénérais. C'est pas bien de dire ça, mais enfin bon, c'était quand même quelqu'un qui avait changé, comme Jean-Jacques Goldman, hein. Il avait changé ma vie. Parce que effectivement, avant de devenir Mad Movies, je me destinais pas à devenir particulièrement cinéphile. Et avant de découvrir la plume de Jean-Pierre, je me destinais pas spécialement à écrire sur le cinéma et à faire le podcast et l'émission que vous écoutez aujourd'hui. On a bu quelques verres ensemble quand même, ça nous est arrivé. Bon, il m'a explosé au ping-pong comme tout le monde. Hein. Et puis, il était quand même très drôle, Jean-Pierre. On a passé des moments très rigolos. Et fin 2012, alors qu'il venait d'écrire l'autobiographique Mad Ma Vie, qui était édité et qui est toujours édité hein, par Rouge Profond, d'ailleurs, il se trouve encore cet ouvrage qui est un indispensable. On a été manger avec lui au resto, on s'est retrouvé avec l'ami Fabrice Lambeau, à qui aussi je dédicace cette émission, que je salue, qui est venu souvent dans cette émission. Et puis il y avait l'équipe de Culture Prohibée qui était là. On a mangé tous ensemble, un repas bien sympathique, bien arrosé. Et on a terminé dans ce studio, le studio où je suis aujourd'hui. Alors c'était il y a quelques années, puisque là nous sommes en 2025. Mais j'ai décidé, parce que cet entretien, pour moi, c'était un entretien où Jean-Pierre Putters a brisé la glace un peu, racontant son enfance, racontant toujours sous des airs de rigolard et un peu avec un peu de dérision comme il le faisait tout le temps, mais racontant plein de choses assez personnelles. Et donc, malgré notre grande tristesse, hein, j'ai décidé de vous faire réécouter cette émission, une émission durant laquelle vous pourrez vous rendre compte qu'on s'est bien amusé et puis qu'on a vraiment fait le tour d'une vie bien remplie. Et ça, c'était avant l'aventure Metaluna, avant qu'il produise quelques films avec Metaluna. Donc il a encore eu d'autres aventures derrière. En tout cas, Jean-Pierre Putters va nous manquer. Et donc c'est pour ça qu'on vous propose aujourd'hui de réécouter ce long entretien qu'on avait eu avec Jean-Pierre Putters. Dans le studio, il y avait Jean-Pierre Putters et aussi Fabrice Lambeau. Et puis, évidemment, il y avait l'équipe de Culture Prohibée. As I live my role, I swear I'd sell my soul for one love who would sing my song. Feel this emptiness inside me, for the one love who would sing my song. Live beside me what we dream, for the one love who would sing my song. Ça démarre dans les années 50-60.
Oui, ça démarre loin. Au départ, j'avais raconté comment je m'étais retrouvé tout seul à la défaveur d'un incendie où j'avais été séparé de ma mère. Je me retrouvais à l'assistance sociale. Et puis, comment j'avais été récupéré par une grand-mère, comment j'avais vécu un peu difficilement, sans argent, sans amis, et comment je m'étais créé une vie de substitution via l'écran de cinéma. Le film devenant plus important que ma vie réelle, quoi, en quelque sorte. Mais je vous rassure, depuis, j'ai contrebalancé, je préfère ma vie actuelle au cinéma.
Ben justement, moi, je vais revenir quand même en arrière.
Oui.
Évidemment, forcément, vu le bouquin. Mais comment, justement, quels sont les premières... On le voit un peu, on le lit, bien sûr, dans le livre, mais quels sont les premiers contacts de JPP avec le fantastique, le cinéma à cette époque?
Alors, de toute façon, mon goût pour le fantastique et pour le cinéma en général, c'était le refus du quotidien, le refus du béton, le refus de toutes sortes de choses, des contraintes de la vie active, résister à l'autorité, faire sa vie dans son coin, vivre ses expériences, satisfaire ses plaisirs immédiats. On me disait toujours « oui, plus tard, tu feras ça », mais ça ne m'intéressait pas plus tard. Ce qui m'intéressait, c'est le présent. Et donc, je faisais tout pour me retrouver au cinéma. Et comme je n'avais pas d'argent, je vivais les aventures les plus extraordinaires pour récupérer de l'argent. Ça pouvait aller jusqu'à prendre 4 bouteilles de lait vide et aller à l'épicier un peu plus loin, se faire rembourser les consignes. Et puis, ça me faisait 135 francs de l'époque, qui représente à peu près même pas 2 euros maintenant. Et je donnais 5 centimes à l'ouvreuse qui me foudroyait du regard. Et voilà. Toute ma vie consistait à trouver l'argent pour aller au cinéma quasiment tous les soirs et 3 ou 4 fois le dimanche. Quoi. J'étais un fou furieux.
D'ailleurs, j'ai cru comprendre que tu allais jusqu'à risquer ta vie pour aller au cinéma.
Oui, alors ça, c'est une histoire folle. D'autant plus que c'était une lutte incessante entre ma grand-mère et moi. Elle pour me garder à la maison et moi pour m'enfuir. Alors on prenait mes chaussures. Alors j'avais trouvé la parade. J'avais des semelles. J'avais découpé une paire de gants avec le dessus du gant et des épingles à nourrice. Je m'étais fait un genre de mocassin. Je sortais comme ça. Et comme j'avais pas les clés, je longeais une corniche pour agripper l'espagnolette de la porte de l'escalier. Et ça se passait au 6e étage. Et c'était sur une corniche qui devait faire 20 centimètres, peut-être même pas, en zinc, qui plus est, donc c'est un peu fragile. Et il y a un moment, il fallait se lâcher. C'est-à-dire qu'entre une gouttière et la fameuse espagnolette qui ouvrait la fenêtre, il fallait se lâcher. Et au 6e étage, j'avais qu'une peur, c'est que quelqu'un me voit de l'extérieur et crie, ou je sais pas quoi, et que je sois tétanisé et que je parte en arrière, quoi. Fallait vraiment être fou, mais je crois que je l'étais.
Il y a aussi un truc que tu fais bien, moi, je trouve, dans ton bouquin, puis quand tu parles du cinéma d'avant Mad Movies, c'est que tu fais bien le lien aussi, je trouve, entre le cinéma fantastique et la contre-culture.
Ah, tout à fait. Ben, pour moi, c'est un cinéma de la transgression. C'est dans la mesure où il détourne la vie réelle, quoi. Moi, c'est ce que je recherchais, c'est l'aventure, le dépaysement. Alors, ça pouvait être aussi le western, le péplum, toutes sortes d'autres. C'est pas forcément le fantastique pur, hein. Mais j'aimais bien être dépaysé. Par contre, je m'embêtais furieusement aux grands classiques du genre, le voleur de bicyclette, le néo-réalisme italien, tous ces trucs-là, l'île nue. Enfin bon, il y avait des très très beaux films que j'appelais très beaux, très chiants, et qui manifestement n'étaient pas pour moi. Moi j'allais voir le monstre immortel, la créature du lac noir, l'étrange créature du lac noir, des trucs comme ça. Le manoir maudit, enfin, je sentais que ces titres-là, c'était pour moi, quoi, dès que je voyais ça au frontispice du cinéma. Puis alors, ce qui était bien, c'est qu'à l'époque, on avait des grandes toiles peintes à la devanture des cinémas qui donnaient tout de suite l'ambiance du film, quoi. On savait bien qu'on allait voir un film fantastique quand on était confronté au truc. Maintenant, on voit souvent une photo, une fiche technique, un argument, et voilà, et c'est tout. Tandis que ce soit un western, un péplum, on voyait Massiste qui soulevait des trucs, on était tout de suite en pays de connaissance, et moi j'adorais cet univers-là, quoi.
D'ailleurs, tu as fait partie certainement de un peu comme dans les 400 coups de Truffaut, de ces jeunes qui la nuit vont récupérer les affiches.
Bien sûr, tu penses. Voilà. Ne le répète pas. De toute façon, il y a prescription. Mais enfin, oui, j'ai beaucoup commis. Oui.
Tu regrettes un peu dans la disparition des salles de quartier, ou bon, faut bien passer à autre chose.
Bah, évidemment, parce qu'à l'époque, si tu veux, une séance de cinéma, c'était un ensemble. C'est-à-dire, tu avais une première partie, tu avais les actualités, toujours très très consensuelles. Hein, toujours, c'était plus du people qu'autre chose, mais il y avait un documentaire, il y avait un policier éventuellement, parfois on tombait sur un Sherlock Holmes joué par Ronald Howard en noir et blanc, 20 minutes de bonheur, il y avait un dessin animé, il y avait souvent deux bandes annonces, c'est-à-dire prochainement sur votre écran le film pour 15 jours plus tard, la semaine prochaine sur votre écran 8 jours plus tard, donc il y avait toute une première partie, et certains cinémas changeaient leur première partie, ce qui faisait que tu pouvais rester à deux séances et tu voyais pas les mêmes choses, quoi. C'était vraiment un spectacle complet, alors que maintenant ça devient un petit peu un prise unique, tu arrives, faut que tu sortes par la porte à droite de l'écran, et en avant on remplace, et tu prends ton truc de popcorn, et le gars qui est derrière toi fait trembler ton fauteuil, et puis quelqu'un vous appelle sur votre portable, il dit ah ben non, là je suis au cinéma, alors on lui dit nous aussi, hein, etc. Enfin, c'est un petit peu l'ambiance, alors qu'avant il y avait une sacralisation de la salle de cinéma. Déjà, elle avait son odeur, elle avait son infrastructure, elle avait sa couleur, son odeur, oui, son identité. Et les yeux fermés, on pouvait dire « je suis au Splendid Gaieté » ou « je suis au Gaieté Palace » ou « je suis au Texas », etc.
Il y avait des salles que tu préférais plus que d'autres ?
Évidemment. Et puis alors, c'est très proustien, mais je veux dire, l'odeur, c'est... L'olfactif, si tu veux, c'est encore plus fort que la lecture ou quoi que ce soit. Bien sûr, il y a des salles que je préférais. C'était le Texas, qui est devenu l'Espace Gaieté, et où on a fait d'ailleurs notre premier festival du Super 8 en 80, que je dise pas de bêtises, 5, quelque chose comme ça. Non, avant... Enfin, dans ces eaux-là. Et j'avais immédiatement cherché au mur les éclairages que j'avais connus dans mon enfance, qui étaient constitués de deux cow-boys de chaque côté, donc, qui lançaient un lasso, qui faisait tout la fin, mais toute la longueur, sur les côtés latéraux, quoi. Et c'était rouge, bleu, très coloré, et ça éclairait toute la salle. L'éclairage était constitué de ces deux cow-boys lançant sa sauce, c'était merveilleux. Et bah, évidemment, ça n'existait plus, puisqu'ils avaient fait, pas un multiplex, mais ils avaient fait deux salles à la place d'une, quoi. We'll be right back.
comment on passe des salles de quartier aux fanzines?
L'envie de dire des choses, l'envie de lancer une carte de visite à des gens, dans la mesure où on se sent un petit peu seul, à fédérer, quoi. Et puis, la jalousie vis-à-vis de fanzines de l'époque, carrément, de dire pourquoi pas moi. Oui, l'envie de s'exprimer, de rassembler des gens. Je crois que c'était ça au début, de participer, quoi, à un effort de guerre. Parce qu'il faut savoir que c'était une époque où on s'exprimait assez librement, alors que ce soit via la bande dessinée, via la poésie, via la contre-culture. C'était le moment d'Actuel, le moment de tous ces titres un petit peu combattant, quoi, un petit peu différent, qu'on appelait la Free Press à l'époque. Et moi, j'étais dans la mouvance de ça, parce que j'avais adoré l'atmosphère, enfin, et la philosophie de mai 68, cette révolution douce, où on se parlait, où on se rencontrait, où des groupes se formaient, se déformaient. Il y avait une espèce de complicité magique de cette époque-là, dont j'ai gardé la nostalgie et que j'ai un petit peu... fait perdurer via Mad Movies, dans la mesure où on était libre, on pouvait dire ce qu'on voulait, y compris des bêtises d'ailleurs, parce que j'étais pas très analytique au début, c'était plutôt descriptif, je racontais les scénarios, je donnais mon impression, enfin bon, c'était pas... Il a fallu attendre les numéros 11, 12, 13 pour que je prenne un vrai recul sur toute cette production-là et que je l'analyse d'un peu plus près, quoi. Mais Mad Movies, au début, c'était le bonheur de correspondre, de rencontrer des gens, voilà, parce que dans la mesure où j'étais assez solitaire.
Tu n'étais pas seul, puisque tu avais ta Juliette.
Oui, j'avais ma Juliette. C'était moi la Juliette, en fait, parce que j'avais Renéo et Juliette. Donc oui, je suis un amateur de... J'aime la langue française. J'aime la déformer, j'aime la triturer. Quand je dis « me suis sûr sous très déçu, c'est sûr », des choses comme ça, l'allitération. J'aime déformer les phrases, les répétitions, enfin toutes sortes de... J'aime m'amuser avec la langue française. J'adore la langue française.
D'ailleurs, tu adores la contrepétrie, parce que c'est dans Mad Movies que j'ai appris une des contrepétries qui me permet de briller en société.
Oui.
C'est la fermière sait que sa poule mue aussi vite elle au champ.
Oui, alors c'est pas moi qui l'ai sortie, mais elle est bonne. Enfin, personnellement, je préfère une bonne escalope avec une bonne salade. Voilà, une escalope avec une bonne salade.
Tu parlais tout à l'heure, justement, tu étais jaloux un peu des autres fanzines, mais qu'est-ce que tu disais, toi, comme fanzine? C'était quoi, en majeure partie, tes influences?
Alors, je lisais Le Masque de la Méduse d'Alain Petit, je lisais Skull Island de François Joyeux, qui était un journal gratuit qui était imprimé aux dépens d'une banque qui n'était pas au courant, sur leur photocopie, photocopieur cette fois. Je lisais également Michel Heurtaud qui faisait Peeping Tom, et je lui avais tiré son numéro 4 sur le Gloskinski d'ailleurs à l'époque. Je lisais Jonathan, dans lequel j'écrivais, puisque c'était un an avant la parution du premier numéro de Mad Movies. Je lisais plein de choses, et puis évidemment Vampirella, Creepy et Harry, qui n'étaient pas des fanzines mais qui traitaient bien le cinéma bis. Au hasard des équipes, par exemple, quand il y a eu l'équipe de Cinéma Bis avec Jean-Paul Naï, François Joyeux, Alain Petit, Jean-Pierre Bouxiou, etc., c'était vraiment d'une teneur exemplaire. Et le bonheur, c'était d'aller dans les kiosques et de découvrir le dernier Vampirella, qui était à la fois bande dessinée et puis littéraire, quoi. Enfin, sur la critique de cinéma également, quoi. Moitié-moitié à peu près.
Et Midi Minuit dans tout ça?
Midi Minuit, j'ai toujours dit que c'était la Bible. Et puis ça a fédéré... on s'est tous sentis un peu des enfants de Midi Minuit. Et alors là, au sens large du terme, dans la mesure où il y avait Chlokoff, il y avait Jean-Pierre Bouxiou, il y avait... Enfin, quand on voit le courrier des lecteurs de Midi Minuit, on retrouve tous les gens qui ont fanziné après, qui ont repris un petit peu c'était une espèce de transmission. On a suivi, quoi. Midi Minuit, c'était magique. Le premier numéro en 62 sur Terence Fisher, c'était quand même... On n'avait jamais vu ça, quoi.
Sinon, dans les Monster Magazine américains, avec Famous Monster en 58, et puis tous ceux qui ont suivi Horror Movies, Mad Monsters, et vous aurez compris que entre Horror Movies et Mad Monsters, j'avais vite trouvé mon titre, Mad Movies, voilà.
Mais en même temps, d'ailleurs, quand en 72 arrive Mad Movies, ça commence aussi par du Terence Fisher.
Alors, je m'intéressais beaucoup au cinéma britannique et il est certain que les premiers numéros, le numéro 1 était sur Barbara Shelley. Dans le 2, il devait y avoir John Gilling. Enfin bon, tous les prétextes étaient bons. J'ai fait un spécial Cushing, un spécial Christopher Lee. Au début, c'était très, très britannique. Ouais, ouais, j'étais très amoureux de la Hammer Film et puis du cinéma britannique en général, comme Le Sang du Vampire, les productions Baker et Berman, Jacques l'Éventreur, toute cette série-là, j'étais complètement fan, client, collectionneur d'affiches, de scénarios, le moindre objet qui rappelait le truc, je le pourchassais, j'étais super content, j'étais vachement collectionneur, pas au sens thésauriseur du truc, c'est un affreux néologiste, je suis désolé, mais dans l'idée de le reproduire et de le faire partager au lecteur, quoi, parce que j'ai toujours été un petit peu... Parce que philanthrope, à ce niveau-là, ma collection, c'était pour publier et offrir des trucs aux lecteurs. Quoi.
Le premier édito, le premier MAD, si on reprend, parce que la structure du bouquin est bien foutue, c'est parce qu'on a, en gros, l'histoire avec une première partie plus personnelle sur l'enfance, tout ça, puis une deuxième partie où on ouvre plus.
C'est un livre vraiment inclassable dans la mesure où il rassemble des choses irrassemblables, encore un néologisme. Mon enfance, mon armée, mes petits boulots, j'étais vendeur de calendriers pour les aveugles, des choses comme ça, des produits d'entretien aussi pour les aveugles, qu'on voyait pas la couleur comme je dis, mais donc ça démarre par là, ensuite il y a la création de Mad Movies, il y a la prise en compte de tous les numéros que j'ai fait, donc 130 numéros, du 1 au 130. C'était pas facile à structurer, mais enfin, en bidouillant un peu, je m'en suis sorti et je crois que c'est quand même cohérent, malgré que c'est un livre inclassable. C'est pas une bio, c'est pas... je sais pas ce que c'est, mais enfin, c'est là en tout cas.
Avec quelques témoignages de plumes
alors j'ai tenu,
de Mad Movies à l'intérieur.
De plumes averties, oui. Mmh. J'ai tenu à ce que d'anciens de Mad Movies interviennent, disent comment ils avaient découvert le magazine, comment ils s'étaient impliqués dedans. Et puis, j'ai contacté également les nouveaux, Herman, Salé, Esposito, Delelay, etc., qui étaient très contents d'ailleurs de donner leur avis en tant que... Donc je faisais venir la nouvelle garde et l'ancienne garde, quoi. Ça, c'était bien et c'est pas courant, quoi. C'est, encore une fois, c'est un livre inclassable.
Et puis c'est quand même une belle réussite pour Mad Movies, parce que si on reprend justement l'édito du numéro 1, demain il sera peut-être déjà mort. Et
oui,
puis...
alors il faut reconnaître que je ne savais pas taper la machine, j'avais pas de... j'y connaissais rien, j'étais pas très mauvais en orthographe, mais enfin c'était limite, la syntaxe c'était à la limite du déplorable cette fois-là, et c'est progressivement au pied du mur que j'ai appris à manier la langue, à l'aimer, à aimer la critique de films, l'analyse des films, aller les décortiquer... Et des fois, je m'enthousiasmais tellement que je me filais des crises de tachycardie. Il fallait que je me calme. Je prenais des trucs comme Atarax, des machins comme ça pour me calmer. Tellement il y avait une excitation intellectuelle à parler de, je sais pas, d'Argento, dans le 24, dans le 13, dans le 12 et 13, des films de SF des années 50, avec le côté quand même décortiqueur, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait derrière en tant que assimilation du péril rouge, en fait, qu'on voit bien à travers des films comme The Red Planet Mars ou The Blob, qui est encore mieux, c'est symbolique, cette espèce de masse gluante qui s'empare des individus, les digère, se nourrissent de leurs pensées, etc., et vont envahir le monde, c'est merveilleux, quoi. Donc j'ai été un petit peu au-delà des films pour analyser, pour montrer le pour montrer le côté, comment dirais-je, impérialiste du truc, un petit peu policier. Enfin bon, j'ai énormément aimé. Et puis alors mes livres également, il y a certains chapitres que j'adorais faire, comme la Gorgone, justement, c'est des amateurs. Et les films de Santo, de Blue Demon, etc., qui se battent, ces catcheurs masqués qui se battent contre toutes les engeances, tout le bestiaire du cinéma fantastique, en fait, Dracula, le loup-garou, enfin, toutes sortes. Même un espèce de blob, justement, qui est une espèce de toile, enfin, très, très, très bizarre. Ouais, j'ai aimé me lancer là-dedans.
Bah justement, tu abordes un peu le sujet. Les choix éditoriaux de Mad Movies se passaient comment ? Alors, au début, tu étais tout seul, c'était moins dur, mais on voit dans le bouquin que ça fritait de temps en temps. Par contre, dans certains numéros, le dossier Frankenstein, par exemple, ou des choses comme ça, ça a été un peu tendu parfois.
16 pages, oui. En fait, il y avait 20 pages. Je m'étais un petit peu étendu. C'est un dossier qui me tenait à cœur. Et effectivement, je me suis laissé entraîner. Et quand j'ai annoncé ça à l'équipe, ils étaient bouleversés, quoi. Parce qu'on n'avait quand même que 64 pages. Plus la couverture, 68 pages. 16 pages, ça plombait quand même pas mal le numéro. Et alors, on était quand même assez démocrate. Et par exemple, quand j'ai fait un peu de partenariat avec l'édition des Craignos, on avait sorti 9 titres avec Panda Film. Je voulais absolument passer une reproduction de la jaquette, enfin d'une des 9 jaquettes. Et on m'a dit, ah ben non, on passe que des photos dans la rubrique vidéo. Je dis, comment ça, je peux pas passer des photos de la jaquette de ma collection dans mon magazine, etc. J'avais un peu frappé du poing. Et bon, finalement, on avait quand même passé une jaquette, parce que nos concurrents passaient volontiers une jaquette, une critique de film, etc. Et nous différencions dans la mesure où on passait que des photos. On passait pas les jaquettes, parce qu'on trouvait que c'était un petit peu facile comme illustration. On allait chercher une photo légendée du film en question. Donc, il a fallu que j'insiste et que je fasse quasiment une révolution de palais pour pouvoir passer ma collection Panda Film. Il y avait le Plan 9 from Outer Space, il y avait She Demons, enfin, il y avait toutes sortes de titres assez sympas.
Mais donc justement, c'est l'apprentissage du travail en groupe, où il y a eu des changements, des évolutions au fur et à mesure de MAD
En tant de temps, il y a eu tout est son contraire. C'est-à-dire, j'ai démarré déjà à la Roneo, au 10 c'était la photocopie. Après, on faisait, quand on est passé à l'offset, on faisait sur une table à lumière et du papier millimétré, on traçait au rotring le cadre des photos, les titres, les rapports de ce qu'on appelait des bindés. C'est-à-dire le pourcentage de jaune, de rouge, qu'on appelle magenta, etc., le cyan, le bleu, le noir, pour faire certains fonds. Et c'était un super boulot, il fallait reprendre tout comme ça et redessiner au feutre pour... Et maintenant, c'est un stade qui a complètement disparu, le stade de la photogravure. Maintenant, on appelle directement les couleurs Pinton et en avant, on applique. Mais avant, c'était vachement compliqué. Et donc, j'ai connu tout ça, quoi. Ça a énormément évolué. Et puis un jour, j'ai acheté trois postes Atari. C'est un peu moins cher que Macintosh et ça procédait du même. Du même comment dirais-je, procédé. Je me souviens plus du nom du logiciel, mais enfin, toujours est-il que à partir du numéro 57, je crois que j'ai fait 20 pages. Alors que j'y connaissais rien. Là, encore une fois, je savais même pas comment allumer ces vaches d'Atari. Et j'ai fait 20 pages dans le 57. Et avec Vincent Guimbert, on a fait toutes les pages du 58. On est passé, on a squeezé un poste finalement. Et je vois qu'aujourd'hui, c'est fini, le poste photogravure qui coûtait au début environ 60 000 francs. Alors, il faut que je vous traduise ça en euros. De tête comme ça, ça faisait quand même pas mal d'argent. Maintenant, c'est un poste qui est réduit à zéro, qu'on a complètement squeezé, qui est pas mal. Alors oui, j'ai connu des révolutions, bien sûr. Et puis, il y a eu des gens importants qui sont passés, des gens comme Le Bescon qui m'ont... Enfin, avant lui, il y a eu Gilles Gressard. Un gars, d'une part, que j'aimais bien, d'autre part, qui m'a un petit peu interpellé dans la mesure où lui, il était prof de lettres et il m'a donné l'envie de l'analyse, quoi, d'aller un petit peu plus loin. Je me suis un peu dépassé. Le Bescon, pareil, qui nous a amené toutes ces interviews avec les maquilleurs, Carl Fullerton, Rick Baker, Ed French, toute une série qui nous a un petit peu valu d'être catalogués comme les messagers du maquillage en France. Et ça a également entraîné la création de certaines rubriques, comme la rubrique du Cinéfan, où les gens nous expliquaient de quelle façon il reprenait, par exemple, le maquillage de Freddy, la griffe de Freddy, le masque de hockey de Jason, etc. Star Wars dans son salon, la princesse Leia sur son sofa. Enfin, c'est merveilleux, quoi. Voilà. Donc, et puis ensuite, il y a eu Marc Toulec qui a été très important. Marc Toulec qui nous a quittés, hélas. Enfin, qui nous a quittés, il n'est pas encore parmi nous, mais il a quitté Mad Movies.
J'ai eu peur là. J'étais pas au courant.
On a donné, hein, pour ce qui concerne les disparitions, on a assez donné comme ça suffit. Mais Marc Toulec, qui a quitté l'équipe en 1998, quelque chose comme ça, et puis que je n'avais pas revu depuis. Et que j'ai rencontré aux 40 ans à la nuit des 40 ans de Mad Movies. Tout d'un coup, il était sur scène. En plus, je ne l'ai même pas vu monter sur scène. Je présentais les gens, puis tout d'un coup, je tombe sur Marc Toulec. Évidemment, je lui ai tombé dans les bras. Et je lui ai rappelé des choses dont il ne se souvenait pas. Et si bien que Christophe Lemaire, qui était à côté, me dit « Mais c'est pas lui !» Parce que je dis « Oui, il est rentré à 20 ans à Mad Movies, avec le numéro 23. Il avait fait la critique de tel film. Et il s'en rappelait pas, Marc. Alors, sur scène, j'avais l'air un petit peu ridicule. Pourtant, tout ce que je disais, c'était vrai. Mais j'étais très, très ému de le revoir. J'ai revu Guimbert aussi dans la rue. Alors là, on s'est croisés dans la rue, on s'est tombés dans les bras. Alors que, des fois, les rapports étaient un petit peu tendus parce qu'il avait son petit caractère et j'étais pas du genre à me laisser faire non plus. Donc, il y a eu quelques accrochages, mais toujours pour le bien de la revue. Nos accrochages étaient toujours dans l'optique de faire la meilleure revue possible et de satisfaire le lecteur, quoi.
Tu parlais du 23, justement, avec le 22, tout change.
Ah oui, 23. Ouais, oui. Voilà. 22, c'est-à-dire que, parlons plutôt du 21, dans la mesure où il m'avait coûté 16 000 francs, je crois, quelque chose comme ça. Et comme je le vendais à l'époque, je crois que j'étais à 10 francs et que mes librairies me prenaient 30-35%. Même en vendant tout, je ne m'en tirais pas, quoi. Donc, je me suis dit qu'il fallait pas assez professionnel qu'un numéro à 10 000 ou 15 000 exemplaires. C'est marrant, d'ailleurs, parce que la situation se reproduit exactement en ce moment pour un autre titre qui s'appelle Metaluna. Et je suis dans l'expectative, mais je pense que je vais résoudre le problème assez vite. Mais je suis exactement à la même croisée des chemins, c'est-à-dire on est trop engagé, on a fait 8 numéros, c'est dur, l'autodistribution, d'autant plus qu'il y a des librairies qui disparaissent, Gotham, BDciné, il paraît que ça va fermer également la librairie de Norbert Moutier, Ogroff, etc. Donc j'ai des décisions à prendre, que je vais prendre énergiquement, voilà.
Bon. Justement, une décision qui a dû être dure à prendre, c'était quand même la vente du titre, quelque part, Mad Movies.
Ah, la vente du titre, c'est un petit peu... Je compare ça au cri de all-in, quand tu mets tout ton tapis au poker. Des fois, tu le regrettes. Des fois, t'es content. Je suis un peu partagé. Je crois que j'étais honnête avec moi-même. Et puis, j'avais envie de vivre d'autres aventures que j'ai vécues. J'ai longtemps changé de métier. J'avais envie de faire autre chose, quoi. Et c'était pas possible de faire autre chose et ça en même temps. Déjà que je faisais beaucoup de choses. Je m'occupais de la librairie, à la fois de l'approvisionnement, de la comptabilité. Je m'occupais d'un site internet qui est l'actuel manmovies.com. Je m'occupais d'Impact, de Manmovies évidemment, de plein de choses. J'avais trop de boulot et je faisais des livres par là-dessus. Parce que j'en ai fait quatre, 91, 95, 98 ou 19 et 2000, enfin bon. Fallait que je prenne des décisions et de toute façon, à partir du début 2000, les années 90, je commençais à ne plus aimer vraiment les films qu'on plaçait en couverture. Par exemple, Wild Wild West, les Mystères de l'Ouest, pour ceux qui ne comprennent pas mon anglais. Et je les comprends, si eux ne me comprennent pas. J'ai regretté, quoi. Quand j'ai vu le film, j'ai dit, putain, on a mis ça en couverture. Mais il n'y avait rien d'autre. Il y a une fois, il y avait un seul film d'actualité, c'était Le Repère du Père Blanc. Le Repère du Père Blanc, on l'a mis en couverture, on était obligés. Tout ça, ça ne me plaisait pas tellement. J'ai du mal à faire des concessions, alors j'étais un peu entier. Alors quand un acheteur s'est présenté, j'ai dit ok, all-in. Et puis voilà. Alors dans la mesure où j'ai fait d'autres choses, je le regrette pas vraiment, mais je le regrette un peu quand même.
Ouais, mais,
mais je suis dualiste, hein, donc il m'arrive assez souvent de penser une chose et son contraire en même temps, et de pouvoir présenter des arguments aussi bien pour et contre avec le même talent. Donc je serais capable de vous répondre le plus honnêtement possible, quoi. Qu'il y ait Manmovies en haut, présente Jean-Pierre Putters en quelque sorte. Et il se trouve que c'est le contraire, c'est Jean-Pierre Putters, parce que je ne voulais pas me dessiner du tout sur la couverture, et c'est Jean-Pierre Putters qui présente Manmovies. Et j'avais envie que le fort défende le faible et non pas le faible défense le fort. Mais enfin, c'est comme ça, c'est un bel objet, j'en suis content, il est comme ça. En plus, ça plaît. Je veux dire, par-delà toutes les subjectivités possibles, tout le monde me dit la même chose, il est inclassable, il est instructif, ça paraît prétentieux, hein, mais je reproduis vraiment ce qu'on me dit. Il est émouvant, il est drôle, je retrouve les mêmes qualificatifs à chaque fois, tout le monde me dit la même chose. Donc, quelque part, j'ai fait plaisir à des gens et c'est le principal.
Moi, ce qui m'intéresse, et ça, c'est pas dans le livre, c'est quand tu as revendu ton titre, est-ce que tu avais un plan B ou ce que tu savais, ce que tu allais faire après ?
Vite des aventures. Alors, les aventures, si elles sont bien amenées, tu les connais pas d'avance. Donc, je les ai vécues, mais ça m'est personnel. C'est des trucs que j'avais envie de faire, avoir du temps.
On a fait beaucoup de parties de tennis.
Oui, on a fait du tennis.
Énormément de tennis.
Quand tu te lèves à 5h moins le quart pour prendre ton train de 5h06 tous les matins, tu te dis que tu manques des choses, tu vois. Parce que le bon travail, il se fait avant la venue des collaborateurs, avant la venue, le passage du courrier, avant toutes sortes de choses qui te phagocytent un petit peu ta journée. Donc, tu travailles bien de 6 heures du matin à 10 heures du matin, disons. Ça, c'est privilégié. Et donc, tu manques des trucs que j'avais envie de vivre, de dire, ah bah aujourd'hui, j'ai rien à faire, comment vais-je... privilégier cette journée, comment vais-je construire cette journée, en faire un instant magique, un instant comme les moments parfaits dont parle Sartre dans La Nausée, par exemple. C'est, tu sais pas où tu vas, où la dérive façon situationniste, c'est-à-dire tu sors, tu sais pas ce que tu vas faire et tu fais quelque chose. Alors des fois c'est loupé, mais des fois c'est bien et tu sais pas d'avance ce que ça va être. Alors quelles aventures, oui j'en ai vécu, mais c'était pas, je les connaissais pas d'avance quoi. Mais j'ai fait plein de trucs bien sûr.
Et rétrospectivement, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la revue maintenant ?
Moi je trouve qu'elle retrouve une identité. Confraternel avec des gens comme Christophe Beer, par exemple, qui se racontent un peu, qui racontent leurs émotions vis-à-vis d'anciens films. Je pense à Christophe Lemaire également, qui donne ce côté convivial qu'on regrette un petit peu des fois aujourd'hui, quoi. Marc Toulek, moi, dans les quatre pages de. Du ciné-guide, là, du fantastique guide. Je trouve que... J'aime pas tout, hein, mais je veux dire, les dernières pages, notamment, me plaisent beaucoup. Je trouve qu'on y retrouve un petit peu l'esprit, pas des débuts, mais enfin, le côté sympathique, vintage, de gens comme nous, qui avons un certain âge, quoi, évidemment. Mais ceci dit, je vois arriver des jeunes, c'est ce que je dis. J'ai jamais eu un sentiment de paternalisme à leur endroit. Au contraire, je me sens comme eux, quoi. J'ai l'esprit jeune chien, quoi. Mais je crois que je vais mourir avec, hein. C'est trop tard maintenant.
Et tu es maintenant producteur avec Fabrice. Ouais. Et tu disais tout à l'heure que lorsque tu as commencé le fanzinas, parce que tu avais envie de dire des choses, etc. Puis on a tendance un peu, de façon populiste, à opposer le métier de critique de cinéma et réalisateur. Et tu n'as jamais eu envie de réaliser toi-même quelque chose, parce que tu es passé par plusieurs trucs aussi.
Non, parce que j'ai joué dans des films, j'ai fait des petits trucs dans des films, mais je n'ai pas la fibre réalisatrice. C'est-à-dire, quand on lit bien mes critiques, d'une part, ce ne sont pas vraiment des critiques. Je raconte l'émotion que j'ai pu ressentir à la vision du film. Mais jamais, quasiment jamais, oui, il doit bien y avoir une exception, mais jamais j'ai dit, ah ouais, le mec, alors là, il y a un travelush de trucs, de contre-plongée. La technique, pour moi, c'est quelque chose qui doit accompagner le film et à laquelle je ne m'intéresse pas tant que ça. Il y a des exceptions, évidemment. Il y a des mises en scène invraisemblables. Je parlais ce matin de par exemple Paulette Dubost dans Milou en mai de Louis Malle, qui vient regarder la tombe qu'on lui creuse et qui regarde avec un air un peu compassé ses héritiers en quelque sorte, au début se déchirer puis s'entendre à nouveau. C'est magique, des scènes comme ça. Alors là, c'est fou. Ça me fout sur le cul, mais je veux dire, la technique elle-même ne m'intéresse pas. C'est comme si je prenais une sauce au poivre sans l'onglet ou l'araignée qui va avec, quoi. Enfin, l'araignée, quoi.
Oui,
hein,
oui.
D'accord. Le morceau du boucher. Puis je vous présentais mon morceau, il y en a un petit peu plus, je vous le mets quand même. Et c'est comme si il n'y avait pas la viande avec. Donc pour moi, c'est un ensemble et la technique ne m'intéresse pas, a priori. C'est comme la musique de film, je ne la remarque pas, sauf Pinky Hanging Rock, par exemple, c'est magique, parce qu'il y a le concerto L'Empereur, le cinquième concerto pour piano de Beethoven qui te renverse. Tu as une émotion invraisemblable, parce que tu reconnais un truc et tu vis avec. Mais sinon, tout ce qui est technique, moi, je ne le remarque pas tellement. Ça doit accompagner le reste, comme la sauce dans l'araignée. Voilà.
Alors Jean-Pierre, moi, j'avais juste une petite question. Donc, puisque tu tu aimes bien tout ce qui est matière, vieux livres, senteurs. Ça doit vraiment te faire plaisir d'avoir un retour, un gros retour du fanzina en ce moment.
Mais tout à fait. Mais je crois qu'on n'est pas innocent dans cette affaire, avec mon ami Fabrice qui me tourne le dos là. Dans la mesure où on accueille ces fanzines, Darkness, Médusa.
Toutes les couleurs du bis.
Oui, il y a un renouveau du truc et je crois qu'on n'y est pas tout à fait pour rien. Comme dans les années 80, les clients de Manmovies, en quelque sorte, venaient déposer leur fanzine, se l'échangeaient entre eux, échangeaient leur collaboration. C'est comme ça que s'est retrouvée l'équipe de Starfix, par exemple, en discutant comme ça, en achetant des trucs. Et je crois qu'on est en train de refaire un petit peu la même chose. On donne envie à des gens de faire partie de l'équipe. On a plein de gens, d'amis, Fabrice Blin, Philippe Roux, Jean de Pelé. On fait du tennis ensemble, on danse sur les cours de tennis, on chante le tango. Le plus beau de tous les tangos. Etc. On s'amuse ensemble, on essaye de retrouver un petit peu l'esprit de camaraderie, de sincérité. Et avec, par exemple, avec Fabrice, on fonctionne à la confiance. J'ai pas besoin de lui faire signer un truc pour qu'il le fasse. Si demain son intérêt, ben j'espère, son intérêt est de renier ce qu'il m'a promis, je pense qu'il ne le fera pas. Alors que les trois quarts des gens, et je ne citerai pas le nom, m'ont promis des choses qui sont empressés de pas tenir le jour où c'était plus leur intérêt, quoi. Donc on fonctionne un petit peu avec Fabrice Blin, avec Pascal Stervinou, avec plein de gens. On s'est construit une espèce de petite famille sympa. On aime se retrouver, on mange ensemble. Je fais des pizzas. On va revenir sur le culinaire. Parce que la partie cul n'est pas à négliger non plus. D'ailleurs, on fait des films de cul. On a fait
Metaluna.
On a fait quand même Marvel 14. Voilà, on va faire L'autre monde de Stanley. On adore les films de cul, bien sûr.
Il y a des trucs dans le bouquin où bah, tu mâches pas tes mots. Je pense en particulier à une autre revue concurrente sur le cinéma fantastique. Frite quoi, un petit peu.
Je vais vous dire honnêtement, à vous tous, que j'aurais pu faire bien pire. Mais je parle au sens général, je ne parle pas de cette revue dont j'ignore le nom, je ne sais pas de quoi tu parles. Dans la mesure... où le nom n'apparaît pas dans le manuscrit original. Il y a une tache apparemment de vin rouge, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Donc, je ne sais pas de quelle revue tu parles, mais en fait, toujours est-il que j'ai caché des choses. D'ailleurs, Manmovies me l'a demandé, est-ce que j'ai caché des choses? J'ai répondu oui, mais c'était par charité, en quelque sorte, parce que les gens qui m'avaient fait quelque chose à l'époque, et que j'aurais pu leur reprocher, valaient beaucoup mieux que que la petite faiblesse qu'ils ont pu montrer à un certain moment. Et il y a plusieurs exemples, mais je ne les donnerai pas. Parce que personne n'a y gagné, j'ai envie que ça soit bien, que ça soit objectif, positif, et je vais pas dire un tel m'a fait quelque chose à un moment. C'est vrai qu'en 40 ans de métier, il y a des gens qui m'ont fait des trucs, mais je me suis défendu.
Mais d'ailleurs, il y a aussi, parce qu'on parlait de la fin du titre et de ça et tout, d'ailleurs c'est pas vrai, la cession du titre, je veux dire, mais il y a aussi des super moments. Bon, on voit dans l'interview d'Helen Slater, là, dans le bouquin de Supergirl.
Oui, c'est mon côté jeune chien. Je veux dire quelque chose de sérieux, j'aime le casser. J'ai un peu regretté parce qu'elle était toute mignonne, toute gentille, et elle ne comprenait pas tout ce qu'on lui disait. Effectivement, quand je lui demandais si dans le fait de voler, elle n'y voyait pas une connotation psychanalytique, what? Et quand elle a fini par comprendre, on était deux, j'étais avec Jimmy Frachon qui essayait de m'assister dans mon mauvais anglais. Et quand elle a fini par comprendre ce que je voulais dire, elle a dit « Ah, ok, ok ». Mais elle n'a pas répondu à ma question. Et pourtant, c'est intéressant, cette histoire de pesanteur, de soutien-gorge, tout ça. Enfin bon. Mais le plus cruel, c'était quand même Jimmy qui lui fait cette réponse merveilleuse quand elle demande si Supergirl va marcher en France. Il dit « Je crois que non ». Et il a rien dit d'autre, je veux dire, c'était méchant.
Non, c'était réaliste, ça n'a pas fonctionné.
Ouais, mais on l'a un petit peu manipulé quoi, dans cet entretien. Bon, c'est drôle, mais c'est un peu cruel. Quoi.
Et tu as d'autres souvenirs comme ça, un peu rigolos et tout ça, parce que je suppose qu'il doit y avoir des
oui,
anecdotes.
Oui, ben, dans les radios, un jour j'étais avec Marcel Burel, c'était à Saint-Malo. Saint-Malo, donc on fait une petite radio, vous savez, dans ces genres de radio libre où il n'y a pas de vitres, où il y a plein d'affiches au mur, où il y a plein de photos, où il n'y a pas de vitres, où même des fois il y a des alvéoles d'œufs pour l'isolation phonique, etc. Dans ces toutes petites radios, on nous pose la question, avez-vous rencontré David Cronenberg? Cronenberg, je dis oui, bien sûr, on l'a rencontré à Voriaz et il nous a dit que voilà, bon, enfin, je parle de Cronenberg, quoi. Et l'intervieweur se tourne vers Marcel et dit et vous il dit j'étais avec lui, pour pas répondre, quoi. Enfin, des trucs comme ça avec Marcel, il nous en est arrivé pas mal parce qu'on avait le côté amateur. Et on en riait. Je veux dire, on se prenait vraiment pas au sérieux. On s'est pris des vestes mémorables. Par exemple, on avait loupé l'interview du gars Franco Prosperi pour Beast, l'histoire des animaux, les bêtes attaques, tout à fait. Et en plein début de festival, on l'interviewe et il n'y avait rien sur la bande. Et on n'osait pas lui dire. C'est un peu ridicule, quoi. Et il était là, hello, hi, Franco, etc. On n'a jamais osé lui dire qu'on n'avait pas le truc, quoi. On était assez maladroit. Quoique j'ai été dépassé par Caroline Vier et sa copine qui s'appelait Dufa, je ne me souviens plus de son prénom. Enfin, toujours est-il qu'elles avaient pris rendez-vous avec un certain Georges Miller. Et comme vous savez, il y a plusieurs Georges Miller. Et donc, elles disent « Oui, alors donc, dans Mad Max, blabla, truc. » Alors, elle dit « Oui, je n'ai pas fait de Mad Max, il répond. Enfin, toujours est-il que Mel Gibson... Non, mais moi, j'ai fait tel film, etc. » Et elles ont continué l'entretien comme ça, mais en suicidaire. Mais il était vraisemblable de s'y faire prendre, quoi. C'est pas évident, quoi. Enfin bon, oui, il nous est arrivé beaucoup de... Et moi, je le raconte dans le livre, dans la mesure où mon anglais n'était pas parfait. Je me suis dit, je vais m'adresser à des gens qui parlent français. Hein, comme ça, un producteur américain, je lui dis, vous parlez français? S'il me répond oui, c'est dans la poche. Je lui dis, regardez, je fais un livre, j'aimerais bien que des photos, des trucs. Et je rentre dans un bureau assez important, d'une boîte assez importante, et je dis, do you speak English? Et tout le monde me dit, yes, sans problème. Bon, j'ai eu la honte de ma vie, quoi. Je voulais leur demander s'ils parlaient français. Enfin bon, il m'est arrivé plein, mais j'en ai toujours souri parce que je ne me suis jamais pris très au sérieux.
Ben voilà. D'ailleurs, c'est ce qui caractérisait un peu la revue, ce mélange de professionnalisme et puis de...
Bien sûr, parce que je suis comme ça. Hein. Parce que si vous voulez, un patron de presse a un passé d'études de lettres, de journalisme, de toutes sortes de choses. Et s'il veut se rapprocher du lecteur, des fois, il est un peu obligé de faire une espèce de démagogie, consciente ou inconsciente. Tandis que moi, en tant que passionné, en tant que collectionneur, en tant que spectateur de films, moi, je livrais sans arrière-pensée, avec une espèce de fougue un peu naïve, mes envies, mes réactions, mes ressentiments, mes émotions. Et ça, je crois que le lecteur s'y trompe pas. Au bout d'un moment, on peut le tromper peut-être sur un article, deux articles, mais pas sur une carrière. Et je crois que les gens ont senti cette interactivité, cet amour du lecteur en quelque sorte. Parce que quand un lecteur venait et me disait « Ah, j'aime tellement ce que vous faites », bon, je restais un petit peu sur mon quant à soi. Mais le lecteur, dans son, comment dirais-je, dans son entité, en quelque sorte, j'étais amoureux du lecteur. Et je faisais tout pour le lecteur, et ça me coûtait du fric, ça me coûtait mes vacances, ça me coûtait mes nuits, ça me coûtait plein de choses. Mais j'y allais parce que ça me faisait vachement plaisir, j'avais envie, quoi. Et ça, on ne peut pas trouver ça facilement dans une revue professionnelle. Et j'ai commencé à m'en apercevoir quand les nouveaux pigistes arrivaient, et je leur disais, bah ici, on fait les abonnements tous les deux mois, il y a 4000 abonnements, donc c'est simple. Tu prends le truc, tu le mets dans une enveloppe craft, ensuite tu fais par département, le 1, le 2, le 3, le 4, jusqu'au 98 Monaco, et tu fais des tas, et on va les porter joyeusement au bureau de poste. Et alors les nouveaux, ils disaient, ah bon, mais c'est pas mon boulot, mais je veux dire, il y avait un... Il y avait un amateurisme, en quelque sorte, qu'on ne peut plus retrouver maintenant. Et que je ne retrouverai pas, même si je m'y remets. Je vais peut-être m'y remettre, d'ailleurs. Mais on ne retrouvera pas ce côté one-man show, quoi. Enfin, non, pas one-man show, mais l'équipe. Par exemple, Guinbert saisissait les abonnements. Bah, demander à un gars que tu embauches comme pigiste de dire, bah, tu sais, Coco, quand il arrive 10 lettres, et bah, tu les mets sur le logiciel d'envoi de trucs et on le fait ensemble le jour où. Et d'ailleurs, du jour où j'ai délégué ce poste-là, on n'a pas arrêté de baisser en abonnement. Quoi. On était monté à presque 4000. Et je ne vais pas dire des chiffres précis, mais enfin, on avait pas mal baissé quand j'ai cédé le titre. C'est certain qu'à l'époque où j'ai commencé, par exemple, quand je tenais la librairie Movies 2000, je voyais arriver des gens qui disaient « Oh, le flyer du chat à 9 queues, putain, je ne l'ai pas, je l'achète, c'est combien ?» Bon, maintenant, le chat à 9 queues, tu as le DVD dans ta truc, tu as les photos, tu as tout. Tandis qu'à l'époque, on cherchait un témoin du film, un espèce de truc que tu gardais, que tu collectionnais, que tu... Moi, des trucs sur Peter Cushing, une photo de Peter Cushing, merveilleux, quoi. J'avais une photo au naturel de Victor Madern qui fait le monstre, avec l'œil qui pend, là, qui se répand. Dans le sang du vampire, je l'avais au naturel dans un autre film, j'étais super content, parce que c'est un acteur pas connu du tout, de l'avoir au naturel. J'adore les caves, j'adore les greniers, j'adore l'odeur des vieilles choses au grenier, l'odeur des vieux livres dans les caves. Donc je suis dans mon élément, j'adore ça.
Et on a abordé un peu Movies 2000 qui a ouvert il y a quelques années. Oui. On n'a pas parlé encore, pour conclure un peu cette émission, c'est parler de Metaluna quand même, qui ne cesse d'exploser.
On a notre ami Fabrice Lambeau qui est là, qui est mon alter ego et qui va sûrement vous en dire un mot. Approche-toi du micro.
oui, donc on a plein de choses à venir pour 2013, notamment le film de Julien Maury et Alexandre Bustillo, Aux yeux du vivant, qu'on va tourner au printemps, pendant 2 mois pratiquement. On a aussi plusieurs documentaires en cours, Super 8 Madness de Fabrice Blin et Vincent Lelour qui fait le point
qui trace
l'histoire du Super 8 Fantastique en France.
Dont
le festival que Jean-Pierre organisait, le festival du Super 8 avec des images d'époque, etc. Plein d'extraits de films, des interviews.
Avec Handicap Man, bien sûr.
Voilà,
oui. Avec mon chien qui ouvre la porte.
Voilà, parce qu'on a fait aussi des reconstitutions avec le chien de Jean-Pierre.
On a fait des reconstitutions.
De séquences à la Ambline.
Par exemple, je reviens au théâtre Marigny, je dis « Ah, c'est là !» Je regarde, je m'assois, je suis seul dans la salle, donc je choisis mon siège. Et puis, j'évoque un petit peu comment ça s'était passé, tout ça. Et je m'en vais comme ça, en disant au revoir un petit peu au show américain. Et puis je me prends un projecteur que j'ai cassé. Je ne sais pas si l'image va rester ou quoi, mais enfin bon.
Ça sera dans les...
C'est assez sympa. Dans le
bêtisier.
Dans le bêtisier, oui. Ouais, ça, il y aura.
Après, on a aussi le documentaire de Richard Stanley, L'autre monde, qu'on a tourné l'été dernier et qui est en post-production.
Les superstitions cathares, sur les légendes.
Les légendes du sud-ouest, etc. On a The Theater Bizarre 2. Qu'on va tourner étalé sur toute l'année, parce que voilà, comme c'est une anthologie avec 7 réalisateurs, donc on va tourner ça entre les longs métrages, puisqu'on a aussi un long métrage de Douglas Buck quand on est en septembre-octobre au Canada.
C'est pas les projets qui nous manquent.
Donc voilà, ouais, ça fait beaucoup de boulot. Plus donc la revue qui va évoluer, plus l'édition de bouquins.
Il y a une revue Metaluna, oui, dont on a fait 8 exemplaires et qu'on espère exploser bientôt.
Et je rappelle d'ailleurs aux fidèles auditrices et auditeurs qu'ils peuvent se procurer la revue Metaluna sur notre site www.lesfilmsdelagorgone.fr.
Voilà. J'achète.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée par votre serviteur Jérôme Potier dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée par Christophe Cosins dit Coco, John Ferré dit l'homme mystère, Thomas Roland dit le loup-garou Picard, and the last but not the least, Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.